Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
7h47, Olivier Mazerolles, vous recevez ce matin le président de l'Assemblée nationale et candidat socialiste pour la région Île-de-France, Claude Bartolone.
Bonjour Claude Bartolone.
Bonjour.
La gauche est totalement désunie, mais arrive Nadine Morano qui vous offre un dérogatif formidable. Vous allez lui écrire une lettre de remerciement ?
Non. Et bien entendu que je condamne d'une manière absolue les propos de Morano, mais je condamne aussi toute la bande qui était avec elle et qui l'a amenée à tenir ses propos. Parce que ce sont pas des propos comme ça qui viennent de nulle part. Lorsque depuis le retour de Monsieur Sarkozy, le parti de la droite tient réunion sur réunion sur l'islam, lorsque Monsieur Sarkozy, devant le think tank Choiseul, tient des propos sur le thème « on va arrêter de se faire culpabiliser sur les banlieues », lorsqu'un certain nombre de députés de droite disent « on va accueillir des réfugiés, mais des Syriens », lorsqu'un élu de droite dit « je vais accueillir des réfugiés chrétiens, mais pas d'autres, parce qu'au moins eux, ils coupent pas la tête de leur patron ». Vous voyez, il y a une dérive. À force de courir par le Front National, c'est la plus stupide qui s'est fait prendre.
Votre adversaire en Île-de-France, avant-hier, disait à ce micro, moi je n'ai jamais défini la nation par une race.
Eh bien écoutez, j'aurais préféré qu'elle démontre sa volonté de répondre à la misère du monde en votant le budget proposé par Jean-Paul Huchon de 5,5 millions pour aider les municipalités qui vont accueillir des réfugiés. Et pour courir elle aussi après le Front National, elle a voté contre, alors que l'UDI a voté pour, parce qu'ils se sont rendu compte qu'à un moment donné, trop c'est trop.
Pauvre Morano, donc, alors, quand même, après la récente défaite de la gauche à Noisy-le-Grand, dans votre département, où maintenant la droite détient plus de municipalités que la gauche, vous avez déploré la désunion de la gauche, mais vous avez dit aussi, les socialistes ne donnent pas assez envie. Comment expliquer ce gâchis, après 3 ans de présidence Hollande, et alors que vous aviez entamé cette présidence avec tous les pouvoirs?
Vous n'avez pas écouté toute la phrase. J'ai dit aujourd'hui, en France, il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas d'envie de Madame Le Pen, présidente de la République. Il n'y a pas d'envie de retour de Monsieur Sarkozy.
D'accord, mais vous, pourquoi?
Eh bien
vous
voilà,
pas
justement,
envie.
C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu des socialistes. C'est tout l'enjeu dans le soutien que nous devons apporter au président de la République et au Premier ministre pour montrer quels sont les points qui peuvent permettre de créer de l'envie. En disant, voilà, les résultats économiques commencent de nouveau à se faire sentir. Mais nous, nous sommes la gauche. On ne veut pas des résultats économiques simplement pour montrer que nous savons gérer. Nous sommes là pour changer le monde. Et au travers de la COP21, au travers de la lutte contre les inégalités, au travers le soutien des services
alors,
publics...
Alors, vous en avez un qui donne envie et qui veut remuer tout ça. Il s'appelle Emmanuel Macron et vous passez votre temps à l'engueuler. Ben, alors que pour les Français, il apparaît innovant et il est populaire auprès
alors,
des Français.
Vous savez, le président de la République et le Premier ministre ont siffler la fin de la récré, et c'est très bien. Oui. Mais moi, je le dis, moi, c'est pas le mot de réforme qui m'inquiète. C'est lorsque vous tenez un terme tellement générique en parlant de la réforme, que vous inquiétez tout le monde. Regardez, moi, on me l'a déjà fait le coup. Il y a trop de fonctionnaires. Combien de fois vous l'entendez localement dans les conversations? Et après, vous dites, ah bon, il y a trop de fonctionnaires? Il y a trop d'enseignants? Ah ben non, monsieur le député, c'est pas possible. Il nous faut des enseignants.
D'accord.
Il y a trop d'infirmières? Ah ben non, c'est pas possible.
Mais ça, c'est
le blocage
absolu. C'est le blocage absolu. Le rôle d'un politique, justement, c'est de débloquer la situation.
Mais justement, débloquer la situation, c'est de faire évoluer la fonction publique. C'est comme le font les fonctionnaires dans les collectivités locales au niveau de l'État. Répondre aux nouvelles préoccupations, bon. Intégrer le numérique, s'intéresser au changement de la société, parce que la fonction publique, elle est là aussi. D'abord parce qu'elle est le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine. Elle est là pour aider à grandir ceux qui ne peuvent pas grandir par leur environnement social ou familial. Et elle est là pour changer le monde.
Mais
aider
néanmoins,
à changer
Emmanuel
le monde.
Macron, il a un allié qui s'appelle Manuel Valls. Même si Manuel Valls est obligé de lui dire « calme-toi » parce qu'il y a de la politique à faire. Mais quand Manuel Valls dit « moi je suis social réformiste et je veux dénoncer tous les conservatismes, à droite certes, mais aussi à gauche, qui empêchent, qui bloquent, qui entrave, c'est bien la même chose.
Mais c'est le fil de la pensée jaurésienne. Depuis Jaurès, qu'est-ce qui fait la différence?
Alors pourquoi il n'y a pas de résultat? Pourquoi on a l'impression que le Parti Socialiste est encrouté dans des positions idéologiques qui n'évoluent pas?
Je ne me sens pas du tout encrouté, je vous rassure. Et au contraire, je me sens tout à fait dans la peau d'un militant qui veut changer le monde. Vous savez, regardez, même si dès qu'il y a un train qui arrive à l'heure, on n'en parle pas. Nous avons eu la meilleure rentrée scolaire depuis au moins 10 ans. C'est un signal fantastique parce que tout commence par l'école. Pour lutter contre les inégalités liées à la naissance, pour lutter contre les inégalités sociales. Et ça, c'est un mouvement considérable. Moi, je suis d'accord de dire il faut lutter contre les conservatismes.
En tout cas, vous ne faites pas envie. Voilà, vous l'avez dit vous-même.
Mais parce que, je l'ai déjà dit, Olivier Mazerolle, et je le répète, nous avons certainement loupé l'étape au lendemain de l'élection présidentielle du rapport de la commission de la Cour des comptes pour dire voilà dans quel état est le pays.
D'accord.
Pour redonner du sens à l'action qui devait être la nôtre pour préserver l'indépendance économique.
Alors maintenant, on va regarder devant nous. Vous êtes en campagne. Vous voulez faire envie en Ile-de-France, j'imagine.
Bien sûr.
Vous parlez d'une Ile-de-France humaine.
Bien sûr.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, écoutez, une Ile-de-France humaine, c'est une Ile-de-France où on peut vivre ensemble et où chacun peut espérer connaître le bonheur là où il habite. Regardez, je vais vous prendre un exemple précis. Depuis les dernières élections municipales, un certain nombre de villes qui sont passées de gauche à droite bloquent 20 000 logements sociaux. Je prends que la question du logement pour pas prendre toutes les heures d'antenne. C'est un signal qui rejoint la critique du début de cette émission. Un certain nombre de maires ne veulent pas du logement social parce qu'ils ne veulent pas le logement des pauvres, des immigrés et de leurs enfants. Moi, je vous le dis, une Ile-de-France humaine, c'est une Ile-de-France qui sera à côté de tous les élus et de toutes les populations qui accepteront de vivre ensemble. Je prends ce premier exemple. Une Ile-de-France humaine, c'est une Ile-de-France qui, au travers de l'action qui est la sienne, aux côtés des lycées, de l'apprentissage, de la formation professionnelle, aux côtés des salariés de l'entreprise, permettra de donner sa chance à chacun.
Il de l'emploi, par conséquent. On est
bien
d'accord.
Sûr,
oui,
bien
alors,
sûr.
Le MEDEF Ile-de-France, il s'interroge à votre sujet parce qu'ils avaient prévu depuis très longtemps une rencontre avec les candidats.
C'est un beau bar.
Les candidats et. Ils y étaient tous l'autre soir, même Nathalie Arthaud y est allée, et pas vous.
Alors voilà, je vais vous montrer que quelquefois on est respectueux de ceux qui vous invitent. J'étais invité depuis des mois à Cergy par les étudiants de l'ESSEC. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps de transport, si je répondais à l'invitation de cette réunion, j'étais obligé d'y rester 10 minutes. Ça aurait été insultant. Et pour vous montrer que j'ai pas du tout peur des entreprises, la veille même, je dînais avec l'ensemble des entreprises du CAC 40 pour vous montrer que ce débat, cette confrontation entre les élus et les milieux économiques qui permettent de faire avancer le compromis, eh bien, c'est quelque chose qui m'a jamais fait peur.
Dans votre projet, il y a l'établissement d'une écotaxe sur les poids lourds en Ile-de-France.
C'est indispensable.
Bartolone, plus fort que Ségolène Royal face aux routiers?
Oui, je pense que attendez, laissez-moi finir. Si vous me prenez pas toute ma phrase, vous allez pas comprendre. Oui, l'écotaxe qui avait été prévue par le gouvernement précédent.
Il a reculé.
Mais parce que c'était mal foutu. On a fait croire que les transports de proximité, les petits camions de livraison pouvaient devenir le sujet d'une taxe supplémentaire. Moi, je veux taxer tous les poids lourds étrangers qui traversent notre région pour aller ou vers Londres ou pour aller vers le sud de l'Europe. En empruntant quelquefois des voiries qui ne sont pas payantes et en nous imposant des coûts. Et moi, je vous le dis, parce que je crois au développement des transports en Ile-de-France, je ne veux pas que les habitants puissent se dire ce sont encore des promesses où on rase gratis. Pour moderniser nos transports, nos RER, renforcer nos métros, développer nos bus, on a besoin d'argent et j'installerai une écotaxe régionale pour les poids lourds étrangers en transit.
Merci Claude Bartolone.
Merci à vous.
Sur la droite, je condamne les propos de Nadine Morano, mais aussi de toute la bande qui l'entoure. Et sur le PS, nous sommes là pour changer le monde, vient de nous dire le président de l'Assemblée nationale, par ailleurs candidat au régional en Ile-de-France. Entretien à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr.